La première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, quelques versets du chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à ta clarté naissante. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les hanches. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. La seconde lecture se trouve dans, c'est l'évangile du jour, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, les versets 29 à 34. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, dans la première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché de nos mains, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ta parole, notre Dieu, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Certains d'entre vous étaient là dimanche dernier. Dimanche dernier, en tout cas, j'étais assis là parce que ce n'est pas moi qui prêchais. Et lorsque j'ai entendu la lecture de ce texte du prophète Ésaïe, ça m'a tellement touché que je m'attendais quelque part à ce que notre prédicatrice, Catherine Axelrad, prêche sur ce passage. Ça n'a pas été le cas, elle a pris le texte plutôt du Nouveau Testament. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, ça m'a donné envie d'y revenir. Et je trouve que ça ferait un très bon support pour une méditation en début d'année. Ça ne doit pas être par hasard d'ailleurs qu'il se trouve dans nos textes du jour en tout début d'année. Parce que je trouve que c'est un des textes les plus lumineux de la Bible. Et je me suis dit que c'était en fait la dernière occasion que j'avais aussi de parler avec vous de l'épiphanie, de cette fête des débuts, des commencements, et c'est pourquoi je me suis dit que je voulais y revenir cette semaine. Alors que je pensais à ce texte cette semaine, m'est revenu en mémoire un temps où, il y a longtemps maintenant, où j'étais scout et où je faisais un camp avec beaucoup de scouts de toute la France, et je revoyais ce moment terrible le matin, vous savez, du réveil. C'était un sifflet qui nous réveillait de manière assez brutale pour nous dire que le moment était venu de commencer la journée, de sortir de nos duvets bien chauds. Et on avait un chef comme ça qui faisait le tour des tentes et qui vociférait après nous en disant « Allez, bande de larves, sortez de là, ça sent la charogne, allez vous laver. » Enfin, voilà, vous pouvez imaginer, quelquefois avec quelques coups de pied dans les duvets pour aider, en fait, à se lever. Alors chacun se levait sans vraiment beaucoup d'enthousiasme, vous vous en doutez, pour aller affronter l'eau glacée de la toilette matinale. Et je ne sais pas pour ces autres scouts que je n'ai pas revus pour l'essentiel, mais dans la vie qui m'était destinée, il y a eu d'autres appels un peu plus motivants pour m'inciter à me lever le matin. Et pour les hommes en général, il y a aussi parfois dans la vie des appels au lever qui ne rencontrent aucune résistance. Au contraire, ils sont motivés par le vrai plaisir de se lever, de se mettre en mouvement, d'agir, de changer, de devenir, d'apprendre. C'est tout ce qui fait le moteur de leur lever. Et pour, vous savez peut-être, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, que c'est un concept japonais qui s'appelle Ikigai. C'est cette motivation qui vous fait vous lever le matin. C'est l'ikigai. Et on peut tous se demander quel est mon ikigai, quelle est cette chose qui me met en mouvement le matin, qui me fait me lever, et qui me fait me lever avec joie, pas avec résistance, ou quel est cet ikigai qui dessine ma vie, jour après jour. Et on en a tous un, et il est différent, donc c'est une bonne question, vous pouvez le chercher chacun pour vous-même. L'enfant, par exemple, s'il n'a pas saisi que c'est un vrai plaisir d'apprendre chaque jour quelque chose, peut avoir du mal le matin à démarrer sa journée. Mais imaginez, le lendemain de Noël, il ne fera aucun effort pour se lever s'il sait qu'au pied du sapin, il y a des surprises qui l'attendent, des surprises qui sont là à déballer. Vous imaginez avec quel élan il va se lever. C'est exactement ça, l'ikigai. Mais on peut le retrouver aussi, par exemple, dans cette annonce formidable au prisonnier qui a fait sa peine après plusieurs mois ou plusieurs années, voilà, ton temps est fait, maintenant la porte est ouverte, tu peux sortir, tu es libre, prends tes affaires et sors. Ce mouvement-là, c'est ce qui représente cette dynamique. Mais il y en a bien d'autres encore. On pourrait imaginer, je ne sais pas combien vivifiant peut être aussi ce mot du médecin à celui qui a été malade pendant plusieurs semaines à l'hôpital ou qui a été blessé. Ce médecin qui lui dit, ça y est, c'est fini, vous pouvez sortir. Vous l'avez entendu, ça peut être une fois dans votre vie, vous pouvez sortir, vous savez, après un séjour à l'hôpital. Moment merveilleux. Et on peut se douter que des appels comme ça, à se lever, sont des appels qui sonnent comme des bonnes nouvelles. On l'entend, et on peut le ressentir même en quelques mots comme ça. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut entendre la parole que Dieu nous adresse dans le cadre de ce début d'année. « Lève-toi, brille, ta lumière arrive. » Il faut bien comprendre que justement, ce n'est pas la parole du chef scout ou du sergent de l'armée « Allez, debout là-dedans ». Ce n'est pas non plus une espèce d'exhortation morale à la méthode Coué « Lève-toi et tout ira bien ». Pas non plus le tonnerre du Sinaï qui réveille les enfants d'Israël endormis et infidèles, mais malgré sa forme impérative, c'est bien une parole de grâce qu'on entend là. C'est le Dieu de vie qui nous met debout parce que dormir serait dépassé, insensé, mortel. Alors soyons juste un instant à l'écoute et attentif au caractère profond de cette exhortation pour nous, pour moi, pour toi. Tu ne peux pas rester couché dans ton passé, t'enfoncer dans la nostalgie, dans l'obscurité des êtres et des choses passées et qui ne sont plus. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. Tu ne peux pas t'engluer dans une petite vie toute feutrée, dans le train-train quotidien, à perdre ta vie, à la gagner, où la nouveauté, la chaleur, l'extraordinaire n'ont pas de place. Lève-toi, brille, ta lumière est là. Et tu ne peux pas non plus te laisser abattre par un avenir incertain, par la crainte de l'inconnu, par les conflits dans le monde, par le climat qui se détraque, par la récession ou par la crise. Lève-toi, brille, ta lumière est là. Alors certes, nous connaissons tous dans la vie ces moments où le doute nous accable, ce doute qui nous fait dire finalement, à quoi bon nous lever ? Tellement de gens dans le monde ont marché dans l'espérance, embrigadés peut-être par tel système, par tel parti politique ou religieux, enthousiasmés par tel projet. Ils ont marché comme ça, tout enthousiasme, à l'aube de leur vie, ils étaient ravis, enchantés. Et petit à petit, ils ont ralenti le pas. Et comme la lumière du soir décline, ils sont devenus obscurité. Ils sont revenus à la tiédeur, sceptiques ou fatigués. Il y a dans ce monde tant de passions déçues, de grandeurs déchues, d'idéalismes brisés et de rêves abandonnés. Mais précisément, tout est là. Nous sommes ici au cœur même de l'Évangile, au cœur même de la question. L'exhortation qu'il nous adresse à marcher, à être lumière, est bien différente de ces innombrables appels par lesquels un jour un être humain ou une organisation nous ont fait marcher pour atteindre un but, un idéal, nous ont fait rêver. Peut-être d'ailleurs l'avons-nous atteint, ou en partie, à moins que nous soyons vraiment restés en rade sur le chemin. L'idéal a perdu de son attrait, ou il s'est estompé petit à petit avec la réalité de la routine, et la grisaille petit à petit a repris le dessus. Eh bien mes amis, il semblerait que le message de ce texte pour nous ce matin est radicalement différent. Dieu ne nous dit pas « marche vers un idéal, poursuis-le et réalise-le ». Il nous dit, beaucoup plus simplement, « ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Alors, brille, brille ». Tu ne peux plus dormir, tu ne peux plus douter, tu ne peux plus t'enfoncer dans la grisaille de l'obscurité, car le ciel s'est ouvert, Dieu s'est manifesté. Il y a eu sur terre un homme qui était autre chose que la grisaille de l'égoïsme humain, autre chose que l'obscurité que vivent les hommes, avec le « moi d'abord », le « moi surtout », le « moi seulement ». Ce que nous dit la Bible, c'est que cet homme a été le lieu où la gloire de la divinité s'est levée, s'est fait connaître, s'est manifestée aux hommes, s'est révélée. Et Jean fait écho à notre texte en disant « Nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique et plein de grâce et de vérité, il tient du Père. » Voilà ce que nous disent les premiers témoins et voilà ce que nous disent aussi tous ceux qui, au fil des siècles, sont venus vers cette lumière. Ils font en quelque sorte partie du message même de ces débuts. Des nations marcheront à ta lumière et des rois vers ta clarté naissante. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils annonceront, comme une bonne nouvelle, les louanges du Seigneur. Alors, avec eux, nous sommes en marche. C'est la grande marche des êtres humains et des siècles, des pauvres, des riches, des noirs, des blancs, des petits, des grands, de tous les temps et de tous les lieux qui marchent ensemble vers le Christ. Alors certes, bien sûr, les ténèbres existent. Notre texte d'ailleurs les évoque avec réalisme et notre cœur lui fait écho. Et notre actualité même nous y ramène. C'est vrai qu'il y a cette guerre, par exemple, tout proche, depuis presque un an maintenant, entre la Russie et l'Ukraine. Il y a bien d'autres conflits ici ou là dans le monde. Il y a la pollution de notre si belle planète. Il y a le monde de la violence et de la sauvagerie. Il y a quelques crises économiques ici ou là, crises énergétiques, quand ce n'est pas des menaces sanitaires. Et c'est vrai qu'en plus, quand on veut bien y penser, tout ça place chacun d'entre nous devant des responsabilités parfois bien contraignantes, difficiles et souvent redoutables. Mais faudrait-il pour autant cesser de fêter l'épiphanie et de renoncer à nous lever alors que le ciel s'est ouvert et que Dieu s'est rendu présent parmi les hommes ? Faudrait-il donc cesser de marcher avec tous ceux qui, dans cette église où nous sommes rassemblés, ont prié avant nous, ont chanté, ont confessé leur foi ? Faudrait-il cesser de marcher avec les chrétiens d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, qui, malgré les épreuves qui les accablent, n'en continuent pas moins de croire au Christ, sauveur du monde, et de marcher avec lui ? Eh bien non, il n'y a pas simplement les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité épaisse qui recouvre les peuples. Il n'y a pas seulement nos échecs et nos défaillances, nos craintes et nos doutes, il y a lui, l'Éternel, qui vient éclairer ce que nous sommes. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Il vient mettre sa lumière. Sur toi, sa gloire apparaît. Et ce n'est pas seulement là, n'entendez pas là, les derniers sursauts des lumières de Noël qui ne voudraient pas s'éteindre. Il ne s'agit pas de ça du tout. C'est même peut-être véritablement là le sens profond, cosmique, universel de Noël qui nous est rappelé avec force. Et les gens qui viennent maintenant vers le Christ ne sont plus seulement les bergers d'Israël, les membres du peuple élu, c'est bien ça qui compte. Hein, l'éclair de la gloire de Dieu a frappé bien sûr en un lieu précis. La crèche est bien dressée au sein du peuple juif et Jésus est bien le fils de Marie la juive. Mais l'éclair et sa lumière éclaire tout l'horizon, et l'horizon de tous les hommes. En fait, ce qui s'est passé là a une portée universelle. L'épiphanie, c'est la gloire de Dieu présente dans le monde, et des peuples partout sont encore en route vers le Christ. Et pour chacun de nous, c'est aussi l'heure du choix, parce qu'il n'est plus temps de rester spectateur et de regarder marcher les autres, nos ancêtres, voilà, ou les chrétiens d'autres continents. Quand la lumière vient, et qu'elle est là, je ne peux que devenir moi-même lumière, ou bien m'enfoncer dans l'obscurité qui demeure. Ou bien je serai enfant de lumière, ou bien l'épiphanie fera apparaître que je préfère la grisaille et les ténèbres. Je serai du côté des mages de l'Orient qui marchent, ou alors du côté d'Hérode qui tue les enfants, c'est-à-dire qui tue l'avenir. Alors, toi qui es venu ce matin à l'écoute d'une parole pour ta vie et pour ta marche cette année, écoute bien résonner ce message. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen.